Dax, le magazine mars 2021, élu à votre intention par les bénévoles de la Bibliothèque sonore de Dax, association des donneurs de voix.
Le mot du maire. Chère madame, cher monsieur, comme vous le savez désormais, j'ai souhaité engager Dax dans la construction d'un projet urbain à échéance 2035. Un projet urbain qui nous permettra de renforcer notre attractivité à l'heure où la crise économique frappe nos territoires. Après la première réunion que nous avons tenue en février, une seconde étape s'ouvre le 10 avril prochain avec la présentation de plusieurs scénarios sur l'évolution de notre ville. Nous comptons à nouveau sur votre participation. Le printemps est traditionnellement le temps du vote du budget. Malgré le contexte, plusieurs projets verront le jour ou seront lancés en 2021. Sur le plan économique, après avoir recalibré le projet, nous achèverons la construction des nouvelles halles de Dax. Sur le plan culturel, nous engagerons des travaux à la bibliothèque pour la rénover. Nous restaurerons la basilique antique gallo-romaine, plus connue sous la dénomination de crypte archéologique. Sur le plan sportif, nous mettrons aux normes la salle de basket à Maurice Boyau, nous referons le terrain synthétique du stade d'Arrigade, nous rénoverons la façade du stade Colette Besson. Pour les jeunes, nous lancerons la construction d'un skatepark et nous engagerons des travaux dans les écoles. Pour les animations associatives, nous allons procéder à l'insonorisation de la salle Amélie Charrière. Pour la sécurité, nous augmenterons le nombre de caméras. Pour la voirie et les trottoirs, enfin, nous augmenterons, au niveau de l'agglomération, le budget consacré à cet important enjeu. En parallèle à tout cela, nous travaillons aussi sur un programme d'animation au cas où l'évolution sanitaire nous permettrait de renouer avec une vie plus conviviale et plus festive. Une décision sera prochainement prise sur la tenue des fêtes de Dax et sur l'organisation de corridas. Et puisque nous évoquons la convivialité de notre ville, autorisez-moi à rendre un ultime hommage à mon ami Jean-Pierre Bastiat qui, sous les couleurs de l'USD, aura apporté tant de joie, tant d'émotions et tant de bonheur à beaucoup d'entre nous. La ville lui rendra l'hommage qu'il mérite. Bien cordialement, Julien Dubois, mairie de Dax, président du Grand Dax.
Centre hospitalier. Vers le maintien de l'autonomie du centre hospitalier de Dax. Une réforme nationale a créé les groupements hospitaliers de territoire, GHT. Si cette stratégie présente des intérêts majeurs, elle n'est pas adaptée au cas landais. Le maire a alerté les autorités sanitaires. Le centre hospitalier de Dax devrait donc rester autonome. Il y a quelques années, une réforme nationale a engagé une réorganisation du système hospitalier français en créant des groupements hospitaliers de territoire, GHT. Le projet visait alors, sur un territoire donné, à établir une coopération et une coordination entre établissements proches géographiquement. Pour mutualiser, quand cela est envisageable, mieux structurer, réaliser des économies, garantir plus d'efficacité et améliorer le service rendu. Leader et satellite. Des objectifs louables, mais qui impliquent qu'un centre hospitalier plus important s'impose comme le leader, on dit qu'il est support, tandis que les autres deviennent des satellites. Ce qui est possible ailleurs, paraît mal adapté à la situation des Landes, un département très étendu où des trois établissements de Dax, Mont-de-Marsan et Saint-Sevé, les deux premiers ont la même taille, une activité comparable, un nombre de lits identique et couvrent un vaste territoire. Or, quand il s'est agi de définir le futur GHT, c'est l'établissement Montois qui a été choisi comme leader et celui de Dax comme auxiliaire. Ce n'était pas plus acceptable que d'ailleurs l'inverse. Le conseil de surveillance que préside le maire Julien Dubois s'est alors positionné de façon très claire et unanimement sur cet aspect, tout en argumentant sur le fait que qu'une telle décision serait nuisible aux patients et conduirait à une dégradation des services de soins. Une période cruciale s'est ouverte ces derniers mois avec le départ du directeur et le risque de voir s'installer une direction unique à Mont-de-Marsan avec un directeur adjoint dans notre établissement. La mobilisation des élus locaux et de la communauté hospitalière d'Acquoise semble avoir fait bouger les lignes. L'agence régionale de santé, l'ARS, a ouvert un poste de directeur qui devrait prendre ses fonctions en juin, ce qui devrait aboutir au maintien de l'autonomie de notre centre hospitalier. Après la cyberattaque, le 9 février, le centre hospitalier a été victime d'une cyberattaque et d'une demande de rançon. Cette attaque est lamentable à l'encontre d'un établissement de soins qui plus est, dans le contexte sanitaire que nous traversons, a commenté Julien Dubois, qui préside le conseil de surveillance de l'hôpital. Elle a handicapé fortement le fonctionnement. Je tiens à saluer tout le personnel soignant très réactif dans des conditions très difficiles pour que les patients soient parfaitement pris en charge. Je remercie aussi l'ARS qui a accompagné les accueils de patients, notamment en cancérologie sur des sites différents, ainsi que le service informatique de l'hôpital qui a travaillé en collaboration étroite avec l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
Rythme scolaire. Parents et conseils d'école choisissent la semaine de 4 jours. Après la consultation des parents d'élèves en décembre dernier, les conseils d'école ont été sollicités. Comme les premiers, ils ont opté pour le retour à la semaine de 4 jours. Les nouvelles dispositions entreront en vigueur à la rentrée de septembre. En septembre dernier, tous les parents d'élèves ont été invités à se prononcer sur les rythmes scolaires. À l'issue de cette consultation, 77,5% des familles ont répondu et 55% d'entre elles ont opté pour un retour à la semaine de 4 jours. Toutefois, la ville de Dax a souhaité également recueillir l'avis des enseignants et des parents d'élèves élus. Entre le 5 et le 19 janvier, les 10 conseils d'école se sont donc réunis sur le sujet de l'organisation du temps scolaire des écoles maternelles et élémentaires. Ils se sont prononcés majoritairement pour la semaine de 4 jours, soit 8 jours pour la semaine de 4 jours et 2 pour celle de 4 jours et demi. Il a donc été proposé au conseil municipal du 24 février dernier de demander une dérogation à l'éducation nationale pour pouvoir revenir à la semaine de 4 jours dès le 2 septembre prochain. 28 élus ont voté pour, groupe majoritaire, 6 ont voté contre, groupe d'opposition, et une non-participation au vote. Ce qui changera à la rentrée. À la rentrée, en septembre prochain, la semaine scolaire s'organisera les lundis, mardis, jeudis et vendredis avec une amplitude d'accueil de 7h30 à 18h30. Le mercredi, les accueils de loisirs fonctionneront pendant la journée complète avec une possibilité d'accueil pendant une demi-journée selon les besoins des familles, avec une amplitude d'ouverture de 7h30 à 18h30.
Dax avance. Projet urbain. Une large concertation est ouverte à tous les citoyens pour imaginer Dax 2035. Une réflexion est engagée pour élaborer un projet urbain susceptible de dessiner le visage futur de Dax à horizon 2035. La concertation et le partage des idées sont les maîtres mots de cette opération. L'ambition partagée est de définir ensemble un projet urbain. Ce projet se nomme Dax 2035. Il s'agit d'imaginer la ville de demain, de préparer et de dessiner le futur visage de Dax pendant les 15 prochaines années. Au-delà du programme sur lequel elle a été élue, la nouvelle équipe municipale souhaite associer l'ensemble des citoyens et des acteurs du territoire, convaincu que l'aménagement d'une ville ne se décrète pas une fois pour toutes et qu'il ne saurait se concevoir en fonction des seules échéances électorales et qu'il doit être pensé sur le long terme. Pour mettre en œuvre ce projet de manière prospective et globale, et éviter de cette façon les opérations au coup par coup, conduisant à des réalisations disparates, une méthode a été définie. C'est le cabinet spécialisé en urbanisme, d'une ville à l'autre, qui a été missionné. Ce cabinet est déjà intervenu dans plusieurs collectivités du Sud-Ouest, comme Toulouse, Pau, Bayonne, Cap-Breton. La première étape consiste à établir un diagnostic. Il permettra de connaître les points forts de la ville, ses vulnérabilités, ainsi que les enjeux déterminants pour l'avenir. D'une manière générale, le diagnostic devra aider à mieux cerner l'identité de Dax, ses capacités de développement et la meilleure façon de vivre ici. Concertation tous azimuts. Pour cela, l'ensemble de la population est sollicité de plusieurs manières. Outre une première rencontre publique, le maire a adressé une lettre à chacune et chacun des Dacquoises et des Dacquois pour expliquer la démarche. Pour que la concertation soit la plus ouverte possible, ont également été interrogés plusieurs responsables du monde économique, thermal, sportif, culturel, religieux. Les anciens maires aussi ont été sollicités, Jacques Forté, Gabriel Belloc, Elisabeth Bonjean, les élus de l'opposition, les responsables du secteur de l'éducation, les associations d'étudiants, la presse, les représentants de l'État. Une boîte à idées a également été ouverte sur le site internet de la ville et à la mairie, ainsi qu'un questionnaire en ligne sur dax.fr. À l'issue de cette phase de concertation qui s'est achevée au mois de mars, une seconde rencontre participative se tiendra le samedi 10 avril de 9h30 à 11h30. Texte en italique. L'enjeu, c'est de construire ensemble notre avenir, explique Julien Dubois. Dax dispose d'une histoire riche, d'une identité forte, d'atouts qu'il convient de mieux valoriser. C'est bien parce que je suis convaincu de son potentiel que je souhaite, en lançant cette réflexion collective, porter et bâtir une nouvelle ambition pour notre cité. Fin du texte en italique. Une première réunion publique. Le 3 février, des ateliers pilotés par le cabinet d'une ville à l'autre ont réuni des personnes du monde économique, thermal, sportif, culturel. Une première réunion publique s'est tenue sur le projet Dax 2035 le 3 février dernier. En raison des contraintes sanitaires qui excluaient toute rencontre dans une configuration habituelle, c'est en direct sur Facebook que le débat a pris corps autour des membres du cabinet spécialisé en urbanisme qui travaillent sur le projet. Si vous souhaitez visionner le replay de cet événement, vous pouvez le faire à l'adresse suivante. Ville de Dax, rencontre publique, hashtag Dax2035, Facebook, ou en retrouvant les liens sur le site de la ville www.dax.fr. 72 591 euros. C'est le montant de l'aide versée par la Banque des Territoires pour la réalisation de l'étude. Plus de 200 personnes ont apporté leur contribution dans la boîte à idées mise en place à la mairie et ouverte sur le site internet de la ville. À cela, se sont ajoutées plus de 120 réponses au questionnaire en ligne.
Actualité. Centre de vaccination. La ville se mobilise, salle Amélie Charrière. Ce centre est opérationnel dans la salle Amélie Charrière. La ville a assuré son installation. Afin de contribuer à son niveau à l'effort national pour endiguer l'épidémie de la COVID-19, la ville a participé à l'ouverture il y a plusieurs semaines d'un centre de vaccination dans la salle Amélie Charrière. Cet effort de la collectivité, qui a mobilisé une quinzaine d'agents, s'est manifesté par la mise à disposition de la salle, mais aussi d'un groupe électrogène, de matériels divers tels que des girondines, des panneaux, des séparateurs, des cabines, des tables, chaises et bancs pour les aménagements tant extérieurs qu'intérieurs. Pour accueillir convenablement les équipes, il a fallu aussi installer des lignes téléphoniques et l'accès à Internet, une alarme anti-intrusion, une alarme anti-coupure électrique et assurer le fonctionnement parfait de la chambre froide. D'un point de vue humain, un agent de la ville a été affecté à l'accueil sur site le temps de la préparation de la salle pendant 6 jours. Depuis l'entrée en fonction, une équipe de ménage intervient chaque jour de 6h à 8h30 du lundi au vendredi. En outre, un agent référent est mobilisé, lequel peut être appelé en cas de problème et effectue une vérification du site et des installations tous les soirs. Cela représente une intervention quotidienne de 3 à 4 agents. Prendre rendez-vous par téléphone au 05 58 06 72 98, en ligne sur santé.fr, la prise de rendez-vous ne se fait pas en mairie. 13 730 euros, c'est le coût de l'opération.
Le conseil municipal a voté le budget 2021. Le budget 2021 sera impacté par les suites de la crise sanitaire et économique. Les actions menées par la ville devront être adaptées et les dépenses et recettes de fonctionnement revues à la baisse pour maintenir les équilibres budgétaires et éviter une nouvelle dégradation d'une situation financière déjà préoccupante. La crise sanitaire ajoute ses effets néfastes à une situation financière déjà fragile. Des efforts de maîtrise de la dépense sont engagés dès ce premier budget. Les impôts n'augmenteront pas et plusieurs projets seront même conduits pour l'attractivité de la ville. Outre l'impact de la crise sanitaire, l'audit financier avait révélé une situation dégradée. En 2021, il est donc projeté de diminuer les dépenses de 1,3% hors investissement, ce qui est une première depuis 4 ans. En attendant, l'épargne demeure dégradée. La capacité de désendettement, c'est-à-dire le nombre d'années nécessaires pour rembourser la totalité de la dette, à la fin de 2020, s'établit à 22 années contre 17 années à la fin de 2019. L'indicateur n'est pas bon, l'État recommandant de ne pas dépasser 12 années. Malgré ce contexte difficile, plusieurs projets essentiels pour la ville seront engagés ou réalisés en 2021. La réhabilitation des halles sera achevée pour un montant estimé à 5,6 millions d'euros hors taxes. Après de longs mois de travaux, le chantier avance. La pose de la charpente est en cours et la couverture du bâtiment va commencer. La réalisation du sol définitif du rez-de-chaussée a débuté sur les couches inférieures de l'établissement. Le long de la rue des Halles, les arbres ont été plantés. Il reste à construire le carreau des Halles et à achever ensuite l'esplanade. La réhabilitation de la bibliothèque municipale sera engagée pour un montant estimé à 1,2 million d'euros, dont 0,6 million d'euros. Le patrimoine historique fera l'objet de travaux avec la première tranche de travaux de restauration de la crypte archéologique, 0,4 million d'euros en 2021, sur un total de 1 million d'euros, financé à hauteur de 50% par des subventions, ainsi que l'entretien des arènes, 0,1 million d'euros. Une étude de diagnostic sur l'état du patrimoine de la ville sera lancée pour déterminer l'ampleur et l'urgence des travaux à réaliser. Pour la barre commerciale de Cuyès, une enveloppe de 1,8 million d'euros de crédit est prévue, dont 0,6 million d'euros en 2021, subventionnée à hauteur de 55%. Insonorisation de la salle Amélie Charrière, 90 000 euros. Les équipements sportifs, 1,4 million d'euros. Mise aux normes de la salle de basket à Maurice Boyau, 220 000 euros. Réfection du terrain synthétique à André Darrigade, 450 000 euros. Lancement du projet de skatepark, réfection de façade à Colette-Besson, 583 000 euros. Travaux d'entretien dans les écoles, les bâtiments et cours de récréation. En matière de rénovation urbaine, l'étude DAX 2035 sera lancée. Parole d'élus. Mylène Hainaut, maire adjointe chargée des finances. Malgré la crise, nous lancerons en 2021 plusieurs projets pour la ville, sans augmentation des taux d'imposition. Les impôts municipaux n'augmenteront pas en 2021. Malgré le contexte difficile, la situation financière de la ville, telle que l'a révélé l'audit et la crise du Covid-19 et ses effets délétères, les impôts municipaux n'augmenteront pas en 2021.
Zoom sur un patrimoine municipal dégradé. Depuis plusieurs années, comme dans plusieurs bâtiments publics très abîmés, la toiture de la bibliothèque municipale se dégrade considérablement. Il ne s'agit plus désormais d'attendre davantage. Un projet de réhabilitation existe qui nécessite un déménagement temporaire du service. Chaque fois qu'un orage fort se manifeste, c'est aussitôt l'inondation dans la bibliothèque. Il faut alors recouvrir de toute urgence les livres et le matériel informatique. Il faut aussi éponger le sol, laisser les lieux s'assainir. La plupart du temps, cela conduit à la fermeture de ce service public très fréquenté. Le problème date de plusieurs années tout au long desquelles la situation n'a cessé de se dégrader. Il vient notamment du toit où les infiltrations sont nombreuses, en particulier à un endroit qui a fini par fragiliser une poutre maîtresse. Rétablir la situation. Je cite, texte en italique, « La bibliothèque prend l'eau de partout », regrette Martine De Dieu, maire adjointe en charge de la culture. Ce bâtiment n'a pas été entretenu et aujourd'hui, l'état général est très mauvais qui pénalise tant les usagers que les agents qui travaillent là et dont je comprends la lassitude. Pour rétablir une situation normale et pour que la bibliothèque soit digne de ce nom et mise hors de danger, nous avons donc décidé de lancer des travaux non prévus dans notre programme. Mais la situation était si grave. Fin de citation et fin du texte en italique. Ce chantier qui doit débuter cette année ambitionne de refaire toute la toiture et de repenser l'intérieur tout en aménageant le patio dont la valeur patrimoniale est certaine. Pendant la durée des travaux, une grande partie du fonds sera temporairement transférée dans l'ancienne Banque de France où des aménagements sont en cours. Ces équipements qui souffrent. Outre la bibliothèque, plusieurs établissements communaux souffrent d'un manque d'entretien qui conduit à une situation difficile pour les usagers ainsi qu'aux agents de la collectivité. Parmi eux, le musée de Borda, l'école d'art plastique municipale, certaines maisons de quartier comme celle de Berre, certaines cantines comme celle de l'école Robert Badinter. Mais aussi les locaux du CCAS, le chapiteau du stade Maurice Boyot, le marché couvert, la passerelle qui conduit au Sablard. Parole d'élu, Alexis Arras, maire adjoint chargé de l'urbanisme des travaux et de l'habitat. Texte en italique. La situation des bâtiments communaux ne permet pas d'accueillir les usagers dans des conditions de confort et de sécurité. Cela va exiger de lourds investissements à moins que ne soient engagés des partenariats privés pour des projets innovants susceptibles de rendre la ville plus attractive. Fin du texte en italique.
Jean-Pierre Bastiat, hommage. Il était un très grand de Dax et du rugby. Le 3 février dernier, victime d'un accident vasculaire une semaine plus tôt, Jean-Pierre Bastiat s'éteignait. Il était âgé de 71 ans. 32 fois international au poste de deuxième et troisième ligne centre entre 1969 et 1978, ce monument du rugby français, né à Pouillon, a toujours porté le maillot de l'USD, son unique club. Sa carrière sera interrompue prématurément en 1978 après une blessure au genou contre Tyros. Pendant toutes ces années, Jean-Pierre Bastiat a construit une carrière sportive considérable. Finaliste du championnat de France en 1973 contre Tarbes, il a remporté avec le club deux titres du challenge Yves du Manoir en 1969 et 1971. Avec le 15 de France, il est bien sûr le vainqueur du Grand Chelem de 1977 et l'auteur face à l'Irlande d'un essai incroyable. Dans cette génération de joueurs incomparables figuraient Aguirre, Harries, Bertrand, Sangali, Averroes, Romeu, Palmier, Imbernon, Paparambord, Paco et Cholet. Sous le même maillot œuvraient aussi Scrella et Rive, avec lesquels Jean-Pierre Bastia forma à 18 reprises une troisième ligne anthologique que les Barbarians britanniques invitèrent en septembre 1978 à disputer une rencontre face aux Lions britanniques et irlandais. En décembre, les trois rugbymen jouaient à nouveau avec les Barbarians britanniques contre les All Blacks à Cardiff. Jean-Pierre Bastia fut à 5 reprises le capitaine du 15 de France. Ce géant des Landes, fort de ses 2 mètres et d'un gabarit hors du commun, était aussi rapide dans les actions balle en main qu'habile dans les pénalités et drop goal et immense pourvoyeur de ballons en touche. Cela fit de lui un des meilleurs joueurs au monde de son temps. Assureur à Dax, dirigeant de l'USD au début des années 90, grand animateur des Barbarians français, Jean-Pierre Bastia était aussi très investi dans sa ville. Le 5 février, la cathédrale a accueilli ses proches et amis. Les obsèques à Dax ont également attiré beaucoup de monde sur la place Roger Ducos. La messe a été célébrée par le prêtre Philippe Lebel, ancien joueur de l'USD, assisté de Christian Coucouron, l'aumônier des arènes de Dax. Anciens internationaux et membres des Barbarians ont assisté à cette cérémonie. Ouverte par la Gouriaounac, elle s'est achevée avec la Dacquoise. Recouvert de maillots de l'US Dax, de l'équipe de France et des Barbarians, le cercueil a été acclamé à sa sortie de la cathédrale.
Actualité. En ville, plusieurs rues prennent un nom. Le conseil municipal a donné de nouveaux noms de rues qui célèbrent de fortes personnalités dacquoises. Sous l'impulsion d'Alexis Arras, maire adjoint en charge de l'urbanisme, la ville a choisi d'honorer la mémoire de personnalités locales et de féminiser les noms des rues. Edmond Deiris, 1919-2013. Dans les Hauts de Saubagnac, une rue existe désormais à son nom. Il a dirigé la caisse d'épargne de Dax de 1953 à 1981 et a occupé des fonctions régionales. Adjointe au maire de 1959 à 1977, et premier adjoint de 1971 à 1977 en charge des finances, il a joué un rôle important dans la construction de logements sociaux. Il a suivi l'opération de Cuyès et géré l'accueil des rapatriés d'Algérie en 1962. Il a présidé la SA HLM et rempli une mission fondamentale à l'office HLM. Il a présidé la Société de crédit immobilier des Landes et faciliter l'accession à la propriété de nombreux dacquois. Dirigeant à l'USD, il a également géré l'acquisition du patrimoine thermal en 1968, puis, lors de la création de la compagnie thermale de Dax en 1969, qu'il a dirigé pendant 16 ans. Il a apporté la participation de la Caisse d'épargne. Chevalier de l'Ordre national du mérite, il a reçu la Légion d'honneur en 1997. Auguste Albaret, 1824-1891. Fils de cordonnier, élève de l'École des arts et métiers d'Angers, il prend la tête d'une entreprise spécialisée dans le matériel de battage. On lui doit la construction et le perfectionnement de moissonneuses, de tracteurs et de faucheuses et l'invention de la première batteuse à céréales. Pur produit de la méritocratie, il a joué un rôle majeur dans la modernisation de l'agriculture française. Jules Verne le cite dans Une ville idéale, une nouvelle écrite en 1875 où le célèbre écrivain imagine la ville d'Amiens en 2000. Raphaël Miliez-Lacroix, 1850-1941. Figure marquante de la Troisième République, il a été maire de Dax, conseiller général des Landes, sénateur, vice-président du Sénat 1929-1933 et ministre des colonies du gouvernement Clémenceau 1906-1909. Son nom a été donné au quai situé en bordure de la Dour, du côté des arènes entre les deux ponts. Son œuvre municipale est ainsi célébrée: développement du thermalisme, construction d'écoles publiques, création des boulevards. Est également intégré son rôle en 1894 pour la défense de la tauromachie, le vote des grandes lois de la République comme celles de 1901 et de 1905, et son soutien au gouvernement qui a fait admettre l'innocence de Dreyfus. C'est d'ailleurs le rejet d'une motion dreyfusarde qu'il a proposé au conseil municipal qui a provoqué sa démission du poste de maire. La route des Métayers, qui remplace la vieille route d'Isos, fait référence, quant à elle, à l'histoire populaire des Landes. André Tramezaig, la pionnière. André Tramezaig a été une des premières conseillères municipales élues en 1935, quand le sénateur-maire Eugène Milliez-Lacroix a défendu vainement devant le Sénat de la Troisième République l'élection de femmes dans les conseils municipaux. Il a alors organisé un scrutin pour l'élection de conseillères municipales uniquement par un corps électoral féminin. André Tramezaig a été démise de ses fonctions en 1941, mais elle a réintégré le conseil en 1945, où elle a siégé jusqu'en 1965. Sage-femme, elle a donné naissance à plusieurs générations de Dacquois. L'actuelle impasse de la rue des Écoles portera désormais son nom.
Ils font Dax. Hashtag fier d'être Dacquois. Talent d'ici. Mareva, une jeune fusée en fuseau. Sa présidente ne tarit pas d'éloge à son sujet. De Mareva coule à pic, Béatrice Pascoe, à la tête de la section ski de l'USD, dit et redit, je cite, « C'est une compétitrice, elle aime la gagne. » Fin de citation. Cette discipline, c'est le ski de vitesse, un sport qui exige des qualités tant physiques que mentales, dans lequel Mareva s'épanouit désormais. Mareva a 17 ans et un caractère bien trempé. Elle skie depuis l'âge de 3 ans, a rejoint les rangs de l'USD à 7 ans et s'est engagée dans ce sport à fond. Il y a 2 ans, elle pratiquait le ski alpin. Un jour, elle a accompli une course de vitesse. Pour voir. Depuis, elle vit pour ça, heureuse de trouver dans cette exigence l'adrénaline, les sensations fortes et la nécessité d'être absolument prête avant de s'élancer dans des pentes vertigineuses. Du 22 au 24 janvier, avec Bastien Ozarek, lui aussi de l'USD, elle participait à Gavarnie au championnat de France et à une manche de la Coupe du Monde. Bastien a eu le temps de conquérir une 3e place avec une vitesse de 123,372 km par heure et Mareva de dévaler la piste à 120,16 km par heure. Une fusée. Esprit assaut. Adavem, venir en aide aux victimes. L'ambition nationale date de 1983. Dans les Landes, le projet a pris corps en 1993 avec la constitution de l'association d'aide aux victimes et médiation. Depuis tout ce temps, la DAVEM reçoit de nombreuses personnes chaque année victimes d'une infraction pénale. Atteinte aux biens ou aux personnes, agressions physiques et sexuelles, homicides, accidents de la circulation, actes de terrorisme, catastrophes collectives ou naturelles. En 2020, 2500 nouvelles victimes se sont présentées. Un chiffre en nette augmentation depuis 3 ans avec une large majorité de femmes, entraînant 9000 entretiens supplémentaires pour les 14 salariés de l'association présidée par José Pérez et dirigée par Anne Descung. Dans les locaux du Sablard, ces personnes bénéficient d'une aide juridique, psychologique, sociale qui les épaule depuis le dépôt de plainte jusqu'au procès et au-delà, dans un dédale souvent difficile pour une victime déjà pénalisée par ce qui lui est arrivé. Ces prestations sont gratuites et confidentielles. L'autre volet de l'action s'intéresse aux auteurs. Des contrôleurs judiciaires s'assurent, avant un jugement, du respect des obligations et des interdictions. Un délégué du procureur de la République, selon les cas, imagine éventuellement une alternance aux poursuites. Contact. Association d'aide aux victimes et médiation, Justice et proximité 40. Adavem, JP 40. 6 rue des Prairies, Sablard. Téléphone 05 58 06 02 02. Adresse www.adavem40.fr.
Dax utile. Plan d'alerte et d'urgence. Les personnes en situation de fragilité, âgées et dépendantes, sont invitées à s'inscrire ou être inscrites par leurs proches sur le registre du CCAS. Ce service gratuit permet aux personnes d'être appelées une fois par semaine par un agent du CCAS pour faire un point sur leur situation. Besoin de transport, soins, soutien psychologique. Renseignements, CCAS de Dax au 05 58 90 46 46. Fiche d'inscription téléchargeable sur dax.fr. Participez à la constitution de la mémoire collective. Avant de vider vos greniers et caves des vieux papiers concernant Dax, pensez aux archives municipales qui recherchent pour la période 1950-1990 toute publication de la ville ou du syndicat d'initiative, des photographies ou encore des cartes postales semi-modernes. Si vous possédez ce type de documents et que vous souhaitez vous en défaire, contactez le service des archives qui vous indiquera les modalités à remplir pour effectuer votre don. Service des archives 05 58 56 31 56 05 58 56 86 74 archives@dax.fr. Prix des rencontres à lire 2021. Olivier Mac-Bouchard, lauréat. Le lauréat du 12e prix des rencontres à lire 2021 est Olivier Mac-Bouchard pour Le Dit du Mistral, publié aux éditions Le Tripode. Il a obtenu 10 des 16 voix des membres du jury, présidé par Lydie Salvaire, prix Goncourt 2014. Olivier Max Bouchard a grandi dans le Luberon. Il vit désormais à San Francisco. Le Dit du Mistral est son premier roman. Le prix lui sera remis le vendredi 15 octobre prochain, jour d'ouverture des rencontres à lire qui se tiendront jusqu'au 17. L'histoire. Après une nuit de violent orage, un homme voit frapper à la porte de sa maison de campagne le vieux paysan d'à côté. L'homme lui apprend qu'emporté par la pluie violente, un pan entier d'un ancien mur de pierre sèche s'est éboulé. Au milieu des décombres surgissent de mystérieux éclats de poterie. Intrigués, les deux hommes mènent une fouille. Cela chamboulera leur vie. À votre service, Frédéric Coudron, nouveau directeur général des services de la ville. À 45 ans, Frédéric Coudron devient le nouveau directeur général des services de la ville de Dax. Depuis le 1er février, il succède à ce poste à Dominique Truy, qu'il occupait depuis 2008. Né à Roubaix, Frédéric Coudron est arrivé à Dax le 1er avril 2015 en qualité de directeur de la régie des eaux. Il est ensuite devenu directeur général des services techniques. Frédéric Coudron est passé par l'école des mines de Douai et l'Institut national des études territoriales, INET, de Strasbourg. Pendant 4 ans, il a travaillé dans le privé, dans un bureau d'études, avant de rejoindre la communauté urbaine de Lille et d'occuper ensuite dans cette collectivité devenue métropole européenne de Lille en 2015, forte de 1,2 million d'habitants, le poste de directeur de la production et de la distribution d'eau potable. Frédéric Coudron est par ailleurs auteur de Polar. Il manifeste un grand attachement pour le Sud-Ouest en général et le Pays Basque en particulier, où il a de solides attaches amicales et familiales. Retour à l'image. Nouvel éclairage plus économique à la cathédrale. L'éclairage de la cathédrale a été remis en conformité en 2008. Désormais, cette installation nécessite des interventions de plus en plus régulières, jusqu'à une fois par semaine, pour le remplacement de lampes et le dépannage des ballasts. Du fait de ces manipulations permanentes, l'état des luminaires s'est dégradé et la maintenance s'est accrue. Il a donc été décidé d'installer de la LED, tout en respectant le flux lumineux et les températures de couleur, et d'établir un bilan énergétique pour évaluer de possibles économies. Ce bilan prévoit une économie annuelle de 6 500 euros, soit 26 119 kWh. L'investissement de 23 000 euros sera amorti en 3 ans et demi. Panier garni pour les seniors. Cette année, le traditionnel repas du Nouvel An n'a pas pu se tenir en raison de la crise sanitaire. En janvier, élus de la ville, bénévoles et administrateurs du CCAS ont donc distribué plus de 1500 paniers garnis dans les quartiers ou à domicile quand les seniors ne pouvaient pas se déplacer. Les colis festifs ont été confectionnés par la boutique d'Acquoise aux Délices de Virginie et préparés par les travailleurs de l'ADAPI. 3 épisodes de crue en moins de 2 mois. Le 14 décembre dernier, une première crue de l'Adour atteignait la cote de 5,53 m, puis 5,89 m le 1er janvier et enfin 5,86 m le 3 février. 3 épisodes majeurs qui ont mobilisé chaque fois, en fonction de l'évolution de la cote, jusqu'à 10 agents de la collectivité. En 2020, les astreintes pour les crues ont été déclenchées à 12 reprises. Cette multiplication des crues sollicite beaucoup les digues pour l'entretien desquelles le Grand Dax va engager 11 millions d'euros de travaux pendant les 5 prochaines années. La démolition du Rayalay. Les démolitions se poursuivent qui concernent le bâtiment du Rayalay, les tribunes à proximité et les bassins de la piscine. La surface des démolitions s'étend sur 6000 m². Le désamiantage est quasiment terminé. Le dernier bassin est en train d'être terminé. La structure est en partie démontée pour le bâtiment principal. Le point important de l'opération réside dans la conservation du mur mitoyen avec le dojo. Les travaux doivent s'achever fin avril.
Tribune. Espace des élus de la majorité municipale. Au fil de l'eau. Jean-Pierre Bastia, il a été l'un des artisans de l'alternance à Dax il y a 1 an. Aujourd'hui, l'ensemble du groupe majoritaire tient à rendre hommage à cette figure qui a tant fait pour sa ville dans sa vie de sportif, puis d'homme d'affaires. Hôpital, bravo à l'ensemble du personnel hospitalier qui, à la suite de la cyberattaque, a su réagir avec professionnalisme pour prendre en charge les patients hospitalisés en l'absence de tout moyen informatique. Démocratie. Alors que les familles d'Acquoise ont voté pour le retour à la semaine de 4 jours dans les écoles, les élus d'opposition ont voté contre le choix qui avait été exprimé par la majorité des électeurs et qui avait été souhaité par les enseignants. Halle. Quelle ne fut pas notre surprise de voir que les conditions du fonctionnement des nouvelles halles de Dax n'avaient pas été décidées, horaires d'ouverture et de fermeture, présence de personnel, que le traitement du pourtour de l'équipement, voirie, trottoir, place de stationnement, n'avait pas été défini, que l'évacuation des eaux des chambres froides n'avait pas été prévue, 15 000 euros, que la signalétique n'avait pas été pensée, un amateurisme dans la conduite des grands projets qui n'est pas sans rappeler ce qui avait été constaté sur Maurice Boyau ou sur le parking Chanzy.
Expression politique. Espace des élus de l'opposition municipale. Dax en commun. Ensemble, c'est tout. Chères Dacquoises, chers Dacquois, les 7 élus que nous sommes sont animés par la volonté de proposer des actions au service de notre ville et de ses habitants, de trouver des réponses au quotidien. Élus d'opposition, certes, mais élus quand même, n'en déplaise à M. le maire et son équipe. La situation est complexe. Les finances de notre ville sont tendues. Nous traversons une crise inédite et sans précédent, sanitaire d'abord, sociale bien évidemment et économique ensuite. Pour autant, les élus dont nous sommes doivent être les garants d'un service public de qualité. Jean Jaurès ne disait-il pas « Le service public est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas ». Si certains pouvaient encore en douter, cette phrase prend d'autant plus tout son sens au regard de la situation que nous traversons. La mise en œuvre de politiques publiques fortes à destination de l'ensemble des habitants est plus que jamais nécessaire. Aujourd'hui, la priorité doit rester le bien-vivre, ensemble, des habitants. C'est à ce titre, mû par la même volonté, que nous avons adressé plusieurs propositions à M. le maire en novembre dernier. Des propositions en faveur du soutien au commerce, à la culture, aux associations. Des propositions relevant du social, de la solidarité, de l'accompagnement des scolaires, du sport. Des propositions en faveur de votre quotidien, encore réalisables et d'actualité. En février, nous avons également demandé à M. le maire d'étudier la possibilité de mettre en œuvre un système d'éclairage nocturne à la demande. Le principe, en dehors des horaires habituels d'éclairage, vous pouvez appuyer sur le bouton « ampoule » d'une application de votre smartphone pour activer l'éclairage à l'endroit où vous vous trouvez. Via la géolocalisation, l'application commande l'allumage du quartier, les lampadaires s'éteignant automatiquement au terme d'un délai minuté préalablement déterminé. Ce système déjà en place dans d'autres communes a fait ses preuves, tant en termes de bien-être des habitants que d'économie d'énergie. De nombreuses actions sont possibles pour améliorer votre quotidien. Nous ne sommes pas élus pour donner la réplique à M. le maire lors d'échanges animés. Nous sommes élus pour travailler à améliorer votre quotidien. C'est à ce titre que nous avons œuvré ces dernières années. C'est à ce titre que nous continuerons d'œuvrer. C'est à ce titre que nous continuerons à faire entendre nos voix, vos voix, en étant force de proposition. Prenez soin de vous.
Ici se termine Dax le magazine, mars 2021.